Voici une question dont la réponse est une mise en garde pour tous. Quel est le plus grand péché que nous pouvons commettre? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous avons tous besoin d'entendre aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je crois que vous allez voir à travers nos questions qu'on va traiter d'un sujet bien sérieux aujourd'hui. Je vous encourage à écouter avec votre cœur l'enseignement qu'on va recevoir alors que l'Épître aux Hébreux va répondre aux questions que voici. Comment pouvons-nous expérimenter le repos de Dieu pendant notre pèlerinage sur la terre? Qu'est-ce qui amène un croyant à s'égarer? Comment pouvons-nous entrer dans le repos de Dieu? De quel grand péché devons-nous prendre garde? Qu'est-ce qui empêche les gens de venir au Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui se produit quand on persévère dans le péché? Comment pouvons-nous démontrer que nous sommes membres de la famille de Dieu? Quel est le plus grand péché que nous pouvons commettre? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, c'est avec joie qu'on entre dans ta présence aujourd'hui pour entendre ce que tu as à nous dire, ce que tu veux dire à nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, dispose-nous à bien comprendre ton message et donne-nous la joie de mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons mentionné qu'il y avait une différence entre l'éthique de Moïse et l'éthique du Seigneur Jésus. En effet, la loi mosaïque s'intéressait principalement à la conduite des Israélites. Par contre, le sermon sur la montagne indique que le Seigneur Jésus s'intéressait principalement au caractère des gens. Un enfant de Dieu conserve toujours la ferme confiance et l'espérance dont il se glorifie. C'est le Seigneur Jésus qui le garde. La confiance en Dieu et l'espérance se manifestent par de la joie. Nous avons ajouté qu'une personne sombrerait dans le découragement si sa seule religion en était une fondée sur l'éthique ou les principes moraux. C'est la personne de Jésus-Christ qui nous sauve, et celui-ci doit nous racheter de la perdition éternelle. Cette épître nous permet de considérer le Seigneur Jésus, c'est-à-dire de réfléchir sérieusement à qui il est. Elle nous donne l'occasion de le faire. Nous avons cependant besoin de l'Esprit de Dieu pour nous révéler le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi parlé d'un autre danger dans la dernière émission. En effet, le doute ou l'incrédulité guette le croyant. Et s'il n'est pas prudent, il peut tomber dans ce piège. Nous avons vu l'exemple de la nation d'Israël. Après avoir reçu la loi sur le mont Sinaï, après avoir vu des miracles et des démonstrations de la puissance divine, arrivés à la terre promise, ils ont douté de la parole de Dieu qui leur avait promis le territoire. Parce que le peuple a craint les géants du pays, et qu'il n'a pas craint Dieu, il a dû errer dans le désert pendant 40 ans. Vivez-vous un désert spirituel parce que vous n'êtes pas disposé à faire confiance à Dieu? Dieu nous invite à entrer dans son repos. Ce repos comprend deux aspects. Premièrement, il y a le repos de la rédemption. Ce repos s'obtient par la rédemption en recevant le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous recevons le pardon de nos péchés et l'Esprit-Saint nous donne l'assurance de la vie éternelle. Deuxièmement, il y a le repos qui découle d'une relation intime et personnelle avec le Seigneur Jésus. Celui qui goûte ce repos marche dans la joie malgré les souffrances et les épreuves. Chers amis, Débutons notre lecture, Hébreux chapitre 3, versets 10 et 11. « Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, « Ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Aujourd'hui, nous reprenons avec la pensée sur laquelle nous avons terminé à la dernière émission. Nous avons dit que les 12 pierres déposées au centre du Jourdain, lorsque le peuple est rentré dans la terre promise, étaient une illustration de la mort du Seigneur Jésus, et les 12 pierres prises du milieu de la rivière et déposées au lieu où le peuple a passé la nuit représentaient la résurrection de Jésus-Christ. Chers amis, êtes-vous rentrés dans le repos de Dieu? L'apôtre Paul parle de cela dans l'Épître aux Romains. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4. Nous sommes maintenant unis ou joints au Seigneur Jésus-Christ vivant, et c'est la seule façon que nous avons de jouir du pays de Canaan. Ce pays n'est pas le ciel. Nous allons apprendre qu'il y a un repos éternel, et c'est Jésus qui nous donne ce repos. Cependant, aujourd'hui, je vous pose cette question. Êtes-vous rentré dans le repos que les croyants devraient expérimenter alors qu'ils complètent leur pèlerinage sur la terre? Êtes-vous un croyant qui est dans la joie aujourd'hui? La seule façon de connaître ce repos est d'étudier et de croire la parole de Dieu. Combien de chrétiens et combien de membres d'Église étudient vraiment la parole de Dieu? L'Épître aux Hébreux nous apprend que la parole est puissante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu nous vivifie. Ceci réfère au Seigneur Jésus, mais aussi à sa parole écrite. La seule façon que nous avons de nous rapprocher du Seigneur Jésus est de nous rapprocher de sa parole. Le seul moyen que nous avons de jouir des fruits, des raisins et de la beauté du pays, c'est de lire et d'étudier la Bible. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, être membre d'une église n'est qu'un joug et un fardeau. Nous nous sentons obligés de donner de l'argent et de faire certaines choses. Nous agissons par devoir et non par amour pour le Seigneur Jésus. C'est à cause de notre cœur que nous nous égarons. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à ceux qui sont déjà sauvés, mais qui ne goûtent pas la joie d'une marche chrétienne en relation intime avec le Seigneur Jésus. Ils ne croient pas Dieu, ils doutent de sa parole, et forcément, ils traversent un désert spirituel. Le texte dit, « Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. » Notez où la génération s'est égarée. Pas dans son intelligence, mais dans son cœur. Le peuple avait vu de nombreux miracles, et intellectuellement, il savait que Dieu avait la puissance d'accomplir ses promesses. Cependant, le peuple n'aimait pas nécessairement Dieu. Il ne lui accordait pas sa confiance. La génération qui est sortie d'Égypte est citée comme exemple par l'auteur de l'Épître. Elle est citée afin de servir d'avertissement, afin que leur erreur ne soit pas répétée par les Hébreux. Et nous, mes amis, nous sommes aussi en danger d'avoir un cœur qui s'égare. Je jurai donc dans ma colère. Dieu n'a pas besoin de prêter serment, mais il l'a fait. Chers amis, comment entrons-nous dans le repos de Dieu? Le texte dit, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Dieu a dit que cette génération de son peuple n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de son incrédulité. Et vous, mes amis, tant que vous n'accepterez pas le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, tant que vous ne vous consacrerez pas à lui, et que vous ne marcherez pas avec lui par la foi, vous ne connaîtrez rien de la joie de la terre promise, du repos de Dieu. Vous ne connaîtrez pas le repos de votre âme, et vous ne goûterez pas la joie d'une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus. Malheureusement, de nombreux chrétiens dans nos églises marchent dans un désert spirituel. Le désert est un endroit de mort, d'inquiétude, d'errance sans but et de besoins non comblés. Aux Israélites dans le désert, Dieu a dit, « Vous ne connaîtrez pas le repos de votre âme. » Et de nombreux croyants, aujourd'hui, ne sont pas comblés dans leur âme. Ils n'ont pas goûté le repos céleste. Ils n'y sont jamais entrés, car cela se fait par la foi. Par la foi en un objet bien précis, la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Revenons au texte. Hébreux chapitre 3. Lisons le verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. De quel grand péché devons-nous prendre garde afin de ne pas le commettre? Vous vous demandez peut-être si un croyant peut faire cela. Certainement. Il est important que nous percevions que Dieu a été très en colère contre leur péché. Quel était ce péché? Ce n'était pas un meurtre, ce n'était pas un vol, ce n'était pas un mensonge. Mais quel était ce péché? Mes amis, ils n'ont pas cru Dieu, ils ne lui ont pas fait confiance, voilà leur grand péché. » Verset 13. « Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » « Exhortez-vous les uns les autres. Mes amis, nous devrions faire exactement cela, nous encourager les uns les autres. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Bien que ce verset soit avant tout un avertissement aux croyants afin qu'ils ne perdent pas leur bénédiction à cause de la séduction du péché, ce verset peut aussi s'appliquer à un non-croyant. Le cœur incrédule des non-croyants les empêche de venir au Seigneur Jésus afin d'être sauvés. Lorsque quelqu'un me dit qu'il éprouve des difficultés intellectuelles avec la Bible parce que son contenu est incompatible avec les lois de la science et que c'est pour cette raison qu'il ne s'intéresse pas au Seigneur Jésus, je ne le crois pas. Qu'est-ce qui nous tient loin du Seigneur Jésus? Voilà la véritable question. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons le matériel, racontait cette expérience fort intéressante. Permettez que j'illustre ceci avec une expérience lorsque j'enseignais la Bible le jeudi soir au centre-ville de Los Angeles. Un soir, un courtier a remarqué la foule nombreuse qui entrait dans le bâtiment de l'église. Les gens avaient des Bibles et ils semblaient intéressés d'aller à cet endroit. La curiosité du courtier a été éveillée, et il se demandait ce qui pouvait attirer tant de gens à l'église au milieu de la semaine. Ce courtier était un homme bien sur plusieurs plans. Si vous l'aviez rencontré, il vous aurait probablement plu. Il a suivi la foule dans l'église et il a observé ce qui se passait. Plus tard, il est venu me trouver et il m'a dit, « Tout ce que vous avez fait, c'est d'enseigner la Bible. » Est-ce ce qui attire les gens? Je lui ai répondu que je pensais que c'était cela, car c'était notre seule activité le jeudi soir. Cet homme a continué de venir aux études du jeudi soir, puis il a pris l'habitude de venir aussi le dimanche matin. Avant longtemps, il a été convaincu de pécher. Un jour, il est venu me voir à mon bureau et il a dit, « Je croyais être un chrétien. » Mais je me rends compte que je n'en suis pas un, mais que je suis simplement un membre d'église. Mais j'ai des problèmes intellectuels avec certaines de vos affirmations, dont l'histoire de Jonas. Il m'est absolument impossible de croire qu'il a vécu à l'intérieur d'un gros poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Qui vous a dit que Jonas a vécu 3 jours et 3 nuits à l'intérieur d'un poisson? J'ai entendu des prédicateurs l'enseigner. Cela n'est-il pas raconté dans la Bible? Pas dans ma Bible, lui ai-je dit. J'ai pris ma Bible et je lui ai montré ce que le texte disait vraiment. Ensuite, je suis allé dans le Nouveau Testament et j'ai lu ce que Jésus a dit à ce sujet. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu chapitre 12, verset 40. J'ai alors dit ceci au courtier. Si vous avez des difficultés avec la résurrection de Jonas, vous en aurez avec la résurrection de Jésus. Bien, dit-il, je ne savais pas que cela s'était passé ainsi. Je n'ai plus de problème avec ce récit maintenant. Avez-vous un autre problème intellectuel? Lui demandai-je. Peut-être que non. Alors, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai demandé. Quel péché vous empêche de donner votre cœur au Seigneur Jésus-Christ? Quelqu'un vous a-t-il parlé à mon sujet? M'a-t-il demandé, le visage très rouge. Non. Je sais simplement que ton problème intellectuel est un problème de péché dans ton cœur. Il y a quelque chose qui t'empêche de te tourner vers le Seigneur Jésus. Alors, ce courtier se mit à pleurer et a reconnu avoir une affaire avec sa secrétaire dont il payait aussi le loyer de son appartement. Je lui ai demandé si sa femme était au courant. Il a affirmé qu'il avait réussi à tout garder secret. Alors, je lui ai posé cette question. C'est cela, votre problème, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas abandonner votre secrétaire pour le Seigneur Jésus. C'est cela, répondit-il en me regardant. Je vais faire cesser les paiements de loyer et lui parler demain. Non seulement lui a-t-il parlé, mais l'a viré. Elle a menacé de le dénoncer, mais elle ne l'a pas fait. Ce même jour, dans mon bureau, il a reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Mes amis, j'ai été un prédicateur suffisamment longtemps et je me suis rendu compte que les gens n'ont pas de véritable problème intellectuel avec la Bible. Ce qui les tient loin du Seigneur Jésus, c'est le péché dans leur cœur. Comment enlève-t-on le voile sur notre cœur? Un autre passage de l'Écriture traite de Moïse, soit 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. J'aimerais que vous portiez votre attention sur ce texte. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La loi ne peut que nous condamner, mais l'esprit peut nous donner la vie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. L'apôtre Paul n'a pas dit que la loi n'était pas glorieuse, elle l'était, mais sa gloire est passagère. Maintenant, descendons jusqu'au verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Paul fait un contraste entre la gloire de la loi, qui s'est reflétée sur le visage de Moïse, et la gloire plus grande que nous avons en Christ Jésus. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 12 et 13. Moïse ne se couvrait pas le visage pour atténuer l'intensité de la gloire reflétée sur son visage, comme le pensent de nombreuses personnes, mais il la couvrait d'un voile afin que le peuple ne la voie pas disparaître. Cette gloire était passagère. Par contre, maintenant, une autre gloire est manifestée, celle de Jésus-Christ. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 et 15. Vous voyez, l'incrédulité n'est pas un problème intellectuel, mais un problème de cœur. Se peut-il, mes amis, que vous ne soyez pas venu à Christ Jésus parce qu'il y a un péché dans votre cœur et que vous ne voulez pas abandonner ce péché. Votre problème intellectuel disparaîtra aussitôt que vous serez prêt à abandonner ce péché. Notez le verset 16. « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » On enlève le voile sur l'intelligence en enlevant celui sur le cœur. Vous enlevez le voile sur votre cœur en vous tournant vers le Seigneur Jésus-Christ. Le verset suivant dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le Saint-Esprit va agir dans votre vie et vous révéler le Seigneur Jésus comme il le fait pour des milliers de personnes aujourd'hui. Lorsque nous venons à lui, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Citation de 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. La persévérance dans le péché endurcit la conscience. Maintenant, revenons au verset 13 de l'Épître aux Hébreux, qui nous rappelle de nous encourager mutuellement. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous, les croyants, devons nous méfier de la séduction du péché. Nous pouvons en arriver au point où nous pensons mener une vie satisfaisante aux yeux de Dieu, alors que nous marchons dans un désert spirituel. Par exemple, un croyant peut être malhonnête tout en affirmant que sa conscience ne le condamne pas. Il devrait alors condamner sa conscience, car celle-ci est endurcie suite à la persévérance dans son péché. Dans le ministère, nous rencontrons des hommes totalement malhonnêtes, qui ont été dénoncés comme étant menteurs et qui peuvent faire les prières les plus pieuses jamais entendues. Leur conscience ne les condamne pas, car celle-ci est maintenant endurcie. Ils tolèrent donc du péché dans leur vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux revient à l'expérience d'Israël dans le désert et il l'applique aux Hébreux du début de l'histoire de l'Église. Ce qu'il dit s'applique à nous aussi. C'est l'Esprit de Dieu qui applique ses vérités à nos cœurs. Lisons le verset 14. « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous sommes devenus participants de Christ. » Réfléchissez à ceci. Nous sommes en Christ Jésus et il nous appartient. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous démontrons que nous sommes membres de la famille de Dieu lorsque nous persévérons dans la foi et que nous conservions l'espérance dont nous nous glorifions. Lisons notre dernier verset pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 3 verset 15. Pendant qu'il y dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » La citation se termine avec ce verset tiré du psaume 95, déjà cité au verset 7 et 8. L'auteur de l'Épître tient à ce que nous comprenions que ce verset s'applique encore à nous aujourd'hui. L'incrédulité est le plus grand péché que nous puissions commettre. C'est le péché qui paralyse les chrétiens plus que tout autre péché. Si nous jetons un regard en arrière sur notre marche chrétienne, nous devrons admettre que nous n'avons pas toujours fait confiance au Seigneur comme nous aurions dû le faire. Notre vie est entre les mains du Créateur. Faisons-lui confiance et ne nous inquiétons pas. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Hébreux chapitre 3 verset 16 jusqu'au chapitre 4 verset 8.
Merci, Régent. Mes amis, on a reçu tout un enseignement aujourd'hui au sujet de l'incrédulité. On a pu voir que ce péché guette aussi bien les croyants que les incroyants. Pour les gens qui n'ont pas encore reçu le pardon de leur péché par la foi en Jésus-Christ, Régent a mentionné que le fait de ne pas vouloir abandonner un péché était un empêchement de venir à Christ pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Mais il a aussi dit que l'incrédulité paralysait même les chrétiens plus que tout autre péché. Et il a ajouté que si on jetait un regard en arrière sur notre marche chrétienne, on devrait admettre qu'on n'avait pas toujours fait confiance au Seigneur comme on aurait dû le faire. Mes amis, ceci me rappelle mes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu à la fin des années 70. Je venais de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. Je venais de naître de nouveau, mais j'étais dans le domaine artistique où, si vous me permettez un anglicisme, j'étais dans le show business. À cette époque-là, les artistes populaires gagnaient une grosse partie de leur vie en donnant des spectacles dans les cabarets. Dans ces endroits, il y avait tellement de fumeurs qu'on aurait pu trancher la fumée avec un couteau, et naturellement, la boisson coulait à flot. Beaucoup de gens qui assistaient à mes spectacles étaient ivres. Ils étaient là pour se divertir, pour oublier leur quotidien. Alors, dès ma conversion, j'ai réalisé que les cabarets n'étaient plus des endroits où je voulais chanter, puisque désormais, je voulais chanter la gloire de Dieu et partager le message d'espoir qui venait de m'être transmis. J'ai donc appelé la personne qui me trouvait des engagements dans les boîtes de nuit, puis je lui ai dit de ne plus m'appeler, puisque je ne gagnerais plus ma vie de cette manière. Elle m'a répondu, « Caro, tu es folle! Comment vas-tu gagner ta vie? » Et j'ai répondu, « Je ne sais pas, mais je suis certaine que Dieu va pourvoir à mes besoins. » Mes amis, j'avais la foi d'un enfant qui fait confiance à son papa du ciel. Il a toujours pourvu à mes besoins depuis ce temps. Mais je dois vous avouer que depuis environ un an, juste avant d'avoir mes 60 ans, j'ai eu une période d'inquiétude face à mon avenir financier. Je me suis mise à me demander ce que je ferais quand viendrait le temps de ne plus gagner de salaire et qu'il ne me resterait que les montants versés par le gouvernement. Et je me suis réellement inquiétée. Et soudain, j'ai réalisé que je péchais par incrédulité. Comme si ce Dieu merveilleux qui avait toujours pourvu à mes besoins cesserait de prendre soin de moi. Oh, mes amis, je me suis repentie. J'ai confessé mon incrédulité à Dieu et j'ai enlevé le focus sur mon moi. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, des versets 31 à 34, Jésus nous dit ceci. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ, faisons confiance à notre grand Dieu. C'est lui qui prend soin de nous. Et remercions-le chaque jour pour tout ce qu'il nous donne, la nourriture et surtout cette bonne nourriture spirituelle qu'il nous donne dans sa parole, dans la Bible, la parole de Dieu.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui. Toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.